Au cours des deux dernières semaines, les Canadiens de Montréal ont ajouté 3 joueurs pour le dernier droit de la saison régulière. Jason Sock de l'Université Gonzaga réussit le rêve de tout athlète, marquer le panier gagnant en prolongation avec plus de temps au tableau pour mener son université en finale du championnat. Cale Caulfield marque 3 buts et une passe à sa première fin de semaine dans la Ligue américaine. Joe Musgrove réussit le premier match sans point ni coup sûr de l'histoire des Padres de San Diego. Et pendant que le CF Montréal se prépare pour sa nouvelle saison, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Sylvain Croteau, Yvan Deslauriers, Marie-Lou Martineau, Maxime Gagnon et Nathalie Séguin. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 13 avril, on parlera du défi sportif Altergo 2021, l'équipe canadienne de goalball, de paraski de fond, du harcèlement chez les athlètes, du master de golf et des Jeux du Québec. La 38e édition du défi sportif Altergo aura lieu du 23 avril au 2 mai prochain. Maxime Gagnon, qui est le président, directeur général, d'Altergo, est au bout du fil pour nous en parler. Bonjour Maxime, ça va bien?
Bonjour Dominique, ça va bien, merci. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Alors, les préparations pour cette 38e édition se déroulent bien?
Écoutez, oui, cette année, elle se déroule bien malgré tout. Si on se rappelle, l'an dernier, on était à quelques semaines de l'événement, donc on n'avait pas pu rien organiser. Mais là, on a prévu le coup. Donc, toute l'équipe, depuis le mois de janvier, se prépare à différents scénarios. Et on vous offre une programmation semi-virtuelle, semi-présentielle. Donc, plein d'activités intéressantes pour l'ensemble de la communauté du défi sportif Altergo.
Quand on parle de communauté du défi sportif Altergo, on parle de quoi?
On parle cette année d'environ 2000 athlètes. Provenant principalement du réseau scolaire, parce que tout ce qui est compétition nationale et internationale, on le sait, ne peut avoir lieu. Mais on a créé une programmation pour faire participer, pour faire bouger nos jeunes avec différents moyens, que ce soit par des compétitions virtuelles où ils vont nous envoyer leurs résultats, que ce soit un mini-marathon qu'on va faire aussi le mercredi, le 28 avril, où il y a plusieurs écoles qui vont participer. Donc, en direct, on va pouvoir voir ça sur nos différentes plateformes. Donc, c'est intéressant. On voit que les professeurs sont motivés, les jeunes sont motivés, ils veulent bouger et le défi sportif Altergo leur tient à cœur.
Pourquoi le volet scolaire est important pour le défi sportif Altergo?
Je vous dirais que c'est la relève de demain. Puis, c'est un des seuls endroits où les jeunes ayant des limitations fonctionnelles au Québec peuvent pratiquer pour avoir un objectif et un but à la fin de l'année. Donc, c'est un peu ça. Et la relève de demain, on en a besoin, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit avec n'importe quelle fédération que vous parliez, je vous dirais que la relève est importante. Donc, si on a un aussi gros bassin, c'est comme dans n'importe quel sport de haut niveau, que ce soit la Ligue nationale de hockey, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, mais il y a peu d'élus à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a ce bassin-là, qu'on entretient, qu'on motive, qu'on fait de la promotion à travers le Québec. On a déjà eu des écoles de l'Ontario qui sont venues et qui veulent revenir parce qu'il n'y a pas ça nulle part ailleurs au Canada, un événement comme le défi sportif Altergo pour faire bouger nos jeunes ayant des limitations fonctionnelles.
Tu dis que les jeunes se préparent des mois pour participer à l'événement à la fin avril, début mai. Peux-tu me donner des exemples d'une école, par exemple?
Définitivement. On a plusieurs écoles, entre autres, je pense à que ce soit Irénée Lucier, que ce soit Victor Doré, Joseph Charbonneau, qui sont des écoles où les professeurs nous disent on termine en juin, les élèves sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont hâte de recommencer pour pratiquer les événements des sportifs. Ils reviennent avec leur article promotionnel qu'on leur a donné lors de la dernière édition, dès le mois de septembre. Et déjà, ils se mettent en branle pour des pratiques, que ce soit la grandeur du Québec. Puis c'est ce qu'on veut faire éventuellement aussi, c'est d'essayer de créer un réseau où ils vont pouvoir faire une pratique régulière et des compétitions tout au long de l'année pour avoir une finalité qui serait le défi sportif Altergo. Mais l'ensemble des écoles à travers le Québec, puis malheureusement, on a encore des écoles qui sont pas au courant. On a des professeurs, des éducateurs physiques qui débutent dans le domaine, qui ne savent pas que le défi sportif Altergo existe. Puis souvent, c'est les élèves qui sont nos ambassadeurs, qui font la promotion de ça auprès des intervenants et des professeurs d'éducation physique. Donc, pour nous, c'est important. Un jeune va déménager l'école, va arriver dans une école qui ne participe pas au défi sportif Altergo. Donc, pour nous, ben ce jeune-là, les parents vont en parler parce que les parents aussi sont des bons ambassadeurs parce qu'ils voient le bien, le positif que le sport amène à leurs jeunes. Donc, c'est un peu tout ça.
Ah ben Maxime, ça fait super longtemps que toi et moi, on se connaît. Tu as entendu mon histoire quelques fois, mais mon premier défi sportif remonte à une 27 ans à peu près. J'avais 13 ans. Puis, ça m'a permis de connaître l'environnement du sport adapté puis de la haute performance, puis ça m'a permis de me rendre aux Jeux paralympiques en 1996 et 2000. C'est un élément important de ma carrière d'athlète. Est-ce qu'il y en a d'autres athlètes qui ont suivi un parcours similaire?
On a Cindy Ouellette en basketball, on a Marino Martino en boccia, on a Sarah White qui a quand même bien performé dans le milieu, on a Alexis Auclair en para-hockey. On en a plusieurs, je te dirais, puis c'est ce qui est le fun d'entendre ton témoignage. Dominique, je te dirais que c'est touchant de voir qu'après toutes ces années, le défi sportif Altergo est resté marqué pour toi et que tu restes un de nos ambassadeurs. Je t'en remercie grandement. Et j'espère que les autres athlètes le font aussi et je ne suis pas inquiète qu'ils le font. Chantal Petitclerc aussi a commencé parmi ses premières compétitions lors du défi sportif Altergo aussi, qui est rendue une de nos porte-paroles.
Donc, ça en va bien avec ma prochaine question. J'allais te demander qui était votre porte-parole pour cette année, parce qu'à chaque année, vous avez des porte-paroles différents. Chantal Petitclerc fait partie de ceux qui reviennent d'année en année. Mais cette année, qui sont vos porte-paroles?
Alors, nos porte-paroles sont toujours les mêmes. Ce sont nos ambassadeurs qui vont changer à l'occasion. Donc, c'est correct. Ils rentrent par la grande porte comme ambassadeurs et par la suite, s'ils veulent poursuivre, on leur donne le droit de devenir porte-parole. Donc, Chantal Petitclerc, Jean-Marie Lapointe sont nos deux porte-paroles depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans chacun. Hugo Gérard, ça fait 5 ans déjà qu'il est avec nous, donc avait commencé comme ambassadeur. Et des fois, les gens, c'est ça, ils viennent un an, deux ans et repartent. On avait Frédéric Dufort aussi qui s'est absenté et qui revient cette année comme ambassadeur. Mais notre petite nouvelle dans l'équipe cette année, c'est Nancy Audet, une journaliste sportive de haut mérite qui connaît bien le sport et pour elle, les jeunes, important. Donc, le mariage se fait très bien. Alors, Nancy va être une de nos ambassadrices à plusieurs activités virtuelles qu'on a cette semaine dans le cadre de la semaine du défi sportif. Donc, on est bien content de l'avoir avec nous et on espère la garder comme porte-parole aussi éventuellement.
Donc, tu as dit tout à l'heure que le volet international et le volet national, cette année, prend encore une pause due à la pandémie, mais ça reste un élément important en général du défi sportif. Ça va revenir dès que les compétitions vont pouvoir reprendre.
C'est affirmatif qu'on veut revoir ce créneau-là. C'est important. C'est important aussi pour le cheminement de nos athlètes québécois, canadiens, d'avoir des circuits internationaux, des circuits nationaux qui se tiennent à Montréal, qui se tiennent au Québec. Donc oui, je te le confirme.
Et d'ailleurs, la compétition de boccia a souvent été importante au défi sportif. Et il y a un événement qui se déroule présentement là, pour prévoir le lancement de la compétition du défi sportif en général là, sur les médias sociaux. Est-ce que tu es capable de nous en parler un petit peu?
Oui, c'est le défi sportif, la compétition de boccia virtuelle. Alors, si vous allez sur notre site Facebook, vous allez pouvoir voir toutes les informations, mais le challenge de boccia virtuel sur notre Facebook. Et on a aussi depuis, qui va rouler à partir de la semaine prochaine, je crois, c'est notre exposition virtuelle du défi sportif Altergo. Alors, vous pourrez voir les 38 dernières années en images. C'est comme un musée virtuel que vous visitez. Je vous dirais que c'est assez intéressant à aller voir. Mais le défi challenge boccia virtuel, allez voir ça aussi. Et on vous encourage à faire des challenges auprès des différents athlètes, tant provincial, national qu'international.
Et donc, le 23 avril, il va y avoir la cérémonie d'ouverture qui va lancer l'événement.
La cérémonie va avoir lieu le 26, Dominique.
Ah, le 26, pardonne-moi. Donc, oui. Le 26, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture?
Alors, ce qu'on veut faire, c'est de remercier premièrement tous nos commanditaires, nos partenaires qui ont été avec nous malgré cette pandémie, qui nous suivent depuis 2 ans. On est très contents de les avoir avec nous et c'est une façon de les remercier, si on veut. Et il y a différents témoignages qui vont être faits d'athlètes, qui vont être faits d'élus. On a plusieurs élus qui tiennent à démontrer l'importance du défi sportif Altergo. Alors, c'est à ne pas manquer cette cérémonie d'ouverture à 10h le 26 avril à partir de notre Facebook.
Donc, Maxime, merci beaucoup et je te souhaite un bon événement et on se reparle prochainement. L'Association canadienne des sports pour aveugles a annoncé il n'y a pas longtemps leurs recommandations pour le programme d'aide aux athlètes en goalball. 2 athlètes québécois font partie de l'équipe nationale, le vétéran Bruno Haché et la recrue Rakiboul Karim. J'en ai parlé hier avec l'entraîneuse de l'équipe canadienne, Mme Nathalie Séguin. Bonjour Nathalie, ça va bien?
Bonjour, oui, merci.
Donc, avant de commencer, c'est quoi le programme d'aide aux athlètes?
C'est les brevets avec Sport Canada. Donc, Sport Canada donne une aide financière aux athlètes de haut niveau sur les équipes nationales.
Et donc, comment s'est déroulé le processus de sélection?
On a dû s'adapter beaucoup à cause de la pandémie. Normalement, ce processus de sélection-là aurait eu lieu en janvier, après une compétition. Sauf que, puisque tout a été comme annulé à cause de la pandémie, on s'est changé pour le mois de mars. Donc, on a repoussé les sélections. Puis, on a certains athlètes présentement qui font partie de la bulle atlantique où eux, s'ils retournent chez eux, doivent faire un confinement de 14 jours. Donc, on a dû adapter. Là, il y a des tests qui ont été faits directement dans les villes des athlètes et faits avec leurs préparateurs physiques, surtout les tests physiques et tout ça. Et pour le reste, on a dû adapter là, à un camp d'entraînement la sélection pour les athlètes qui ont pu être présents en personne.
Donc, quand on parle, vous avez des athlètes d'un peu partout au Canada qui ont participé à la sélection, ça ressemble à quoi ils viennent d'où les athlètes?
Nous, au niveau de l'équipe masculine, on a des athlètes de Vancouver, on en a en Alberta également, à Calgary puis Edmonton, on en a en Ontario, on en a au Québec, à Montréal, puis on en a en Nouvelle-Écosse. À Halifax. Fait qu'on a vraiment tout le Canada presque au grand complet au niveau de l'équipe masculine. Là.
Donc, quand on parle que vous avez fait des tests pour s'assurer que ce soit égal pour chacun des athlètes, ça ne devait pas être un processus qui était assez facile?
Non, exact. Bien, on a eu quand même, je pense que tout le monde, on comprend que c'est une situation particulière dans laquelle on vit en ce moment puis qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, on a essayé de créer un processus qui était le plus équitable possible pour tout le monde, puis qui a fait en sorte qu'on pouvait rester en sécurité là, par rapport à la sélection. Donc, quand on a vu que dans beaucoup de provinces, on a plusieurs athlètes qui n'avaient pas accès à des salles de conditionnement physique, ben on a rapidement éliminé, par exemple, les tests de force. Puisque au niveau des blessures, évidemment, on ne veut pas que nos athlètes, avec le peu de temps qu'il y avait pour lever des poids, qu'ils viennent à une sélection puis qu'ils se blessent, c'est absolument pas notre but. Donc, on a ajusté le tout par rapport à les demandes, mais en même temps, c'est quand même important de garder un processus de sélection, surtout au niveau des équipes nationales, quand notre calendrier international, bien qu'il change, on va quand même avoir des compétitions où il va falloir qu'on se fie sur des sélections puis les développements de nos athlètes. Là.
Et quand on parle de différents tests que vous avez pu tenir, on parle de quoi comme... Donne-moi des exemples de tests que vous avez faits.
Ben, au niveau physique, on avait des tests de puissance là, avec sauts verticaux. On avait des tests de puissance au niveau du haut du corps. Donc ça, certains tests ont pu être faits, par exemple, pour les athlètes dans la bulle atlantique chez eux. Puis sinon, on a des tests qui sont reliés spécifiquement au goalball où, à ce moment-là, on a comme, par exemple, sur un gymnase, on évalue la vitesse de lancer de nos athlètes, on évalue le type de lancer puis la diversité de lancer qu'ils ont à faire. Et ça, ben il y a une section qui est en partie, donc en match, mais il y a une section également qui est faite sur comme des qualités individuelles. Donc, chaque athlète pouvait se prendre en vidéo ou sinon être sur place où nous-mêmes, on prenait un vidéo puis on pouvait les évaluer. Fait que c'est comme les méthodes qu'on a réussi, mais il y avait des tests individuels en même temps qu'avoir un test global de performance en match également.
Et toi, en termes d'entraîneuse, est-ce que ce processus-là t'a permis d'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas nécessairement vu autrement ou c'était juste on s'adapte comme on peut?
Non, c'est intéressant. En fait, on a changé notre processus un peu de sélection cette année. Il y a certains tests qu'on a modifiés pour l'aligner avec notre j'ai les mots en anglais, le gold medal profile puis notre winning style of play, fait que notre profil de la médaille d'or qu'on avait avec l'équipe nationale. Donc, on a ajusté déjà tout ça cette année. C'était une première fois qu'on le faisait de cette manière-là. Puis, on a eu les commentaires des athlètes. Nous-mêmes, les coachs, on a certains aspects qu'on a vu qu'on pourrait améliorer. Mais en même temps, des aspects comme le fait que, justement, on avait des athlètes dans la bulle atlantique qu'il a fallu évaluer à distance pour certains tests, ben ça nous permet de savoir que peut-être la prochaine fois, on va pouvoir économiser du temps dans un camp de sélection, puisque certains tests pourront déjà être faits à l'avance dans un environnement, par exemple dans les centres nationaux d'entraînement, avec des préparateurs physiques formés et tout ça. Alors, ça nous aide à un peu prévoir le reste et économiser peut-être, rendre le processus encore plus efficace les prochaines fois. Là. Ouais.
Au début de ta réponse, tu as parlé de profil de la médaille d'or. Ça veut dire quoi, ça? En détail, si tu me donnais un petit peu d'idées.
Oui, en fait, avec le Comité paralympique canadien, avec toutes les équipes nationales sont présentement en processus où certains ont déjà terminé ce qu'ils appellent le profil de la médaille d'or, qui est on met en place différents paramètres ou mesures qui nous détermine comme quand on va avoir un athlète qui va venir puis qu'on va faire du recrutement, on va être capable de déterminer les qualités athlétiques, les qualités mentales, physiques que cet athlète-là peut avoir. Puis on veut créer le meilleur, on les compare aux meilleurs athlètes dans le monde. Fait que notre but, c'est toujours de voir dans notre recrutement où cet athlète se situe puis quelle progression on va avoir et quelle méthode paramètres on va regarder pour dire que cet athlète-là a du potentiel et éventuellement ben va nous amener sur le podium pour l'équipe. Là.
Et rapidement, comment va se faire les sélections, par exemple, pour les 6 ou 8 athlètes qui vont se rendre à la prochaine compétition du Canada?
Oui, donc présentement, la prochaine compétition qui est planifiée pour nous, l'équipe masculine, c'est en fin octobre, mi-octobre environ. Donc, notre but, c'est que dans les prochains, on a quand même des camps d'entraînement de planifier cet été. Évidemment, tout va dépendre de la pandémie. Présentement, on va surtout regarder la progression des athlètes durant les camps d'entraînement. Puis c'est ça qui va un peu guider notre décision dans les sélections de l'équipe pour le prochain tournoi international.
Merci beaucoup, Nathalie, pour ton temps. Puis j'espère que vos prochains camps d'entraînement vont bien se dérouler. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
À sa deuxième saison sur la scène internationale, Lynn Marie Bilodeau de Sherbrooke est revenue d'une Coupe du monde de paraski de fond en Finlande le mois dernier avec de très bons résultats. Elle est d'ailleurs avec moi au bout du fil. Bonjour, Lynn-Marie, comment ça va?
Ça va très bien.
Tu t'es bien remis du décalage horaire et de la quarantaine?
Oui, ben là, ça fait 2 jours seulement que je suis sortie de ma quarantaine, donc je profite un peu de l'extérieur.
Oui, il fait tellement beau soleil, on va en profiter. Quoique toi, tu fais du ski de fond, t'aimes ça la neige, fait que j'espère que t'es pas trop déçue.
Non, on m'avait averti qu'il allait plus avoir de neige avant que j'arrive au Canada. Donc, je m'avais préparée, puis j'ai toute une saison d'été qui s'en vient aussi.
Ouais, c'est bon. J'ai lu quelque part d'ailleurs que tu fais du triathlon, là, mais c'est pas le but de l'entrevue, là, mais c'est ça, tu fais du triathlon, fait que c'est ça qui va te. Pour ta saison d'été?
Mais ma saison d'été, ça va être préparatoire pour ma saison d'hiver. Donc, je vais faire plutôt plus du ski à roulette, la luge à roulette pour me préparer pour les qualifications en novembre prochain pour les Jeux paralympiques de 2022.
Ah, ça va vite.
Oui.
Donc, pour revenir à la compétition en Finlande, avant qu'il me reste plus de temps, là, comment ça a été en Finlande?
Ça a vraiment bien été. Je pouvais pas demander mieux pour la saison qu'on a, pour les conditions qu'on a actuellement. Donc, ça m'a vraiment confirmé que même s'il y avait la pandémie et tout a arrêté, j'ai gardé la forme, puis j'étais vraiment contente de pouvoir compétitionner à l'international. C'était une surprise pour moi d'aller en Finlande, donc c'était une belle surprise.
J'ai lu quelque part que tu as changé d'équipement pour la nouvelle saison. Pour la compétition en Finlande, la nouvelle luge, ça a fait une grosse différence?
Ben, j'ai essayé une nouvelle luge pour la Finlande et ça a vraiment mieux été. J'étais plus aérodynamique, j'étais plus forte en montant, donc c'était juste positif pour ma nouvelle luge que qui est en conception en ce moment en Alberta.
Qu'est-ce que ta luge? Bon, t'as dit que tu étais plus aérodynamique et c'est que c'était plus facile à monter des côtes, mais pourquoi celle-là est mieux que ce que tu avais avant?
Parce que celle-là est plus compacte et ça permet de est plus compacte et plus légère aussi, donc ça permet le plus rapidement de faire de monter notre vitesse le plus rapidement. Et qu'est-ce qui pourrait... parce que je suis plus à l'aise aussi dans cette luge-là. Peut-être ça aide aussi à l'aérodynamique. J'ai plus... Je peux plus me positionner pour être aérodynamique dans cette luge-là.
OK. Et, il y a l'emparant, ce qu'ils te font, la classification est importante. C'est quoi ta classification et qu'est-ce que ça implique?
Moi, ma classification, c'est LW12. Donc, LW12, c'est toutes les gens qui ont les abdos, qui ont des amputations du bas du corps. Donc, ça affecte pas notre temps. Donc, j'ai 100% de mon temps à la fin de ma course.
Puis, tu compétitionnes contre d'autres qui ont des chiffres plus bas que le tien, mais qui ont des handicaps plus lourds que
plus
le tien.
Important.
Plus importants. Ouais. Puis, en Finlande, c'était quoi les positions dans lesquelles tu as terminé?
J'ai terminé 9e et 7e.
Dans les différentes distances, que ce soit de la course...
Oui.
Courte distance à la longue distance, c'est ça?
Oui. Ouais. Okay. J'ai fini la septième position, j'étais aux 5 km.
Aux 5 km. OK. Mais toi, tu n'as pas toujours fait du ski de fond. Ça fait longtemps que tu fais du ski de fond, mais tu n'as pas toujours été fait du ski de fond assis là, dans une luge.
Non. Je viens juste de commencer. Je commence ma troisième année en luge. Avant, j'étais debout, mais c'était pas efficace parce que je suis paralysée du côté gauche, donc ma famille faisait du ski de fond, c'est comme ça que j'ai commencé.
Okay. Mais tu aurais pu être classifiée pour faire du ski de fond debout, là. T'aurais pu ça.
J'ai été classifiée parce que j'ai fait ma première Coupe du Monde debout. Donc j'ai été LW9 donc plusieurs années, mais on m'a proposé de faire la transition par la luge.
Mais donc faire la luge, ça te permet d'être plus performante puis peut-être avoir de meilleures chances pour te qualifier pour les Jeux paralympiques ou les championnats du monde, puis peut-être même de gagner des médailles?
La luge, c'est sûr que c'est la meilleure solution pour moi parce que mon pied fonctionnait plus du tout là, vers la fin. Ça va faire une grosse différence pour les qualifications de 2022. Ça s'approche assez vite, puis je suis confiante, puis je croise les doigts que ça fonctionne.
Donc, pour les qualifications pour les Jeux de Pékin, rapidement, qu'est-ce que tu dois accomplir?
Je dois être en bas de 180 points, parce qu'en ce qui fait, on a des points. On commence à 200, il faut les descendre le plus rapidement, le plus possible. Donc, c'est d'être en bas de 180 points. Mon objectif, c'est d'être le plus proche de la meilleure au monde, l'américaine.
Bien, je te souhaite bonne chance pour les qualifications au mois de novembre. Pour nous, on s'en va à la pause et on sera de tour pour le spectacle de la mi-temps.
Ladies and gentlemen, welcome to the halftime show.
Alors, vous venez d'entendre la chanson « Under Pressure » de Queen qui a été enregistrée dans les années 80 au stade de Wembley à Londres. Et je trouvais que c'était à propos parce que les athlètes sont toujours sous pression pour gagner une médaille et les entraîneurs ont aussi de la pression de forcer les athlètes à gagner une médaille. Au cours des derniers mois, plusieurs athlètes ont sonné la sonnette d'alarme pour alerter les médias pour des situations alarmantes dans le sport de haut niveau au Canada. Je discute de la situation avec Sylvain Croteau, le directeur général de SportAid, un organisme mis en place pour soutenir les athlètes. Bonjour, M. Croteau.
Bonjour.
Au cours des derniers mois, on a entendu parler des histoires en ski alpin, en patinage de vitesse courte piste, en natation artistique plus récemment, pour en nommer quelques-unes. Êtes-vous alarmé et surpris qu'il y ait autant d'histoires qui affectent les athlètes?
Alarmé, non. Surpris, plus ou moins. Attristé, oui, parce que c'est la dernière chose qu'on souhaite à nos jeunes lorsqu'ils pratiquent un sport. Alors, c'est certain que ça nous fait toujours quelque chose quand on entend des histoires comme celle-là. Mais malheureusement, non, je ne peux pas être surpris puisque si SportAid existe, c'est pour prévenir et contrer ces manifestations. Alors, mais voilà. Maintenant, ce que ça nous indique dans le tableau de bord, c'est qu'il y a encore beaucoup de kilomètres à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens à rallier autour de cet objectif commun que nous avons, que nous devrions avoir de favoriser une pratique sportive saine et sécuritaire pour nos jeunes sportifs et sportives.
Quels sont je vais poser une autre question parce que la réponse que vous m'avez donnée, ça m'a sonné quelque chose. Vous avez dit que vous avez à rallier plusieurs personnes et qu'est-ce que vous allez devoir faire pour que tout le monde embarque dans ce chemin-là?
Bien, moi, je pense que la chose la plus essentielle à faire, c'est d'éduquer, sensibiliser les gens. Quand on se réfère, par exemple, à l'événement touchant les jeunes nageuses artistiques il y a quelques semaines déjà, bien, il y a certaines des victimes, dont Sylvie Fréchette, qui avouait très candidement qu'elle venait de réaliser que des choses qu'elle avait subies pendant des années, elle en était venue à les accepter en se disant que c'était normal et que c'était le passage obligé. Alors, et ça, ça indique ce que nous avons à faire pour tous, avec tous, parce que si elle estimait qu'il en était devenu normal d'être dans un environnement comme celui-là, il y a des administrateurs de clubs, d'organisations qui acceptaient les comportements d'entraîneurs parce que pour eux, c'était le prix à payer pour avoir des médailles, des réussites, des entraîneurs qui ont des pratiques comme celle-là, parfois parce qu'ils sont obsédés par la victoire, parce qu'on leur impose la réussite, les dirigeants de ton club ou de ta fédération qui imposent la réussite, alors ça amène parfois des entraîneurs peut-être apeurés à tourner les coins ronds. Comme parents, quand on réalise, quand on voit que des choses sont discutable, inacceptable, ben aujourd'hui, on ne peut plus tourner la tête sous prétexte que ben mon enfant, ça va peut-être l'amener un pas plus loin, ça va peut-être lui permettre d'être sur une équipe nationale, d'atteindre la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous revient à tous. Nos sportifs eux-mêmes, il faut les éduquer pour qu'eux-mêmes soient capables de reconnaître ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Puis au final, ben ça va permettre que dans 20 ans, on aura probablement beaucoup moins de jeunes Sylvie ou d'autres athlètes qui réaliseront qu'ils ont accepté pendant des années des comportements inacceptables parce que nous les aurons éduqués.
L'éducation est très importante, mais dans notre façon de faire, la médaille, c'est le but ultime. Tout le monde vise ça. Est-ce que dans notre société, l'appât de la médaille est devenu trop important?
Je pense qu'il est devenu trop important et je vais faire un bémol pour ceux qui nous écoutent. Soyez rassurés, SportAid et nos partenaires, nous, on ne souhaite pas évacuer la performance de la pratique sportive. On reconnaît que la performance fait partie de la pratique sportive à un certain niveau. Nous, ce que l'on dit, par contre, c'est que la performance, l'atteinte de résultats, ne doit pas s'effectuer à tout prix, au prix de la sécurité, de la santé physique, psychologique des individus. Nous, c'est ce que l'on maintient depuis nos tout débuts, que l'on maintient encore. Alors, la performance, oui, mais dans les règles et dans le respect des individus.
Puis comme il y a seulement juste une médaille d'or ou ceux qui atteignent la Ligue nationale de hockey, par exemple, sont minimes, c'est un très peu pourcentage, fait qu'il faut garder ça en ligne de compte, je pense.
Absolument, absolument. Puis, tu sais, si on questionne des athlètes qui ont réussi de haut standard, mais qui ont subi et qui ont dû payer parfois le prix de certains comportements inacceptables, si on leur demande s'ils sont toujours très heureux, fiers de leur médaille, de leur trophée, je peux pas parler pour eux parce que j'en suis pas un, mais j'ai de la difficulté à imaginer que je regarderais ma médaille avec beaucoup de fierté si, en parallèle, j'ai subi des violences physiques, des violences psychologiques ou des violences sexuelles dans ma pratique sportive. Il faut pas perdre ça de vu que là, nos sportifs sont d'abord des êtres humains, des individus, des personnes.
Et est-ce que les différentes fédérations, clubs et ainsi de suite sont bien équipés entre la théorie, parce qu'ils ont souvent des codes d'éthique et ainsi de suite, entre la théorie et la pratique pour réagir rapidement?
Bien, c'est la géométrie variable. Nous, ici, au Québec, je dirais que, entre guillemets, nous avons la chance d'avoir une communauté sportive qui est mobilisée, des élus qui sont mobilisés. Alors, on a mis des choses en place au cours des dernières années. On a instauré, on a doté la pratique sportive de moyens, d'outils. Rien n'est parfait. Il y a encore plein de choses à faire. On y travaille. On travaille en collaboration avec et pour la communauté sportive. Puis, on est en train de développer des choses pour toujours mieux accompagner. On ne part pas de zéro. Vraiment, il y a des belles choses qui existent dans notre pratique sportive ici au Québec et au Canada, mais comme n'importe quoi d'autre, ça peut être optimisé, ça peut être amélioré, puis ça peut être adapté aussi à la réalité de nos sportifs là, qui a changé là, depuis 25 ans, 30 ans. Là.
Et je sais que récemment, dans un article, vous avez mentionné que c'était difficile d'avoir un organisme qui pourrait travailler au niveau canadien, que ce soit en Ontario, au Québec ou en Colombie-Britannique, par exemple. Mais est-ce que ce ne serait pas bénéfique, parce qu'il y a plusieurs fédérations nationales qui travaillent un peu partout, d'avoir un organisme pan-canadien, un peu comme le Centre canadien d'éthique dans le sport, qui gère l'antidopage, par exemple?
Bien, ça, ce serait un idéal, mais c'est difficile d'y penser à court terme parce que, ne serait-ce que d'un point de vue législatif, les règles juridiques d'une province à l'autre diffèrent. Alors, cet arrimage-là demandera un travail de longue haleine et sans compter que la communauté sportive canadienne, c'est un gros bateau. Au Québec, c'est déjà un bateau imposant. Au Canada, c'en est un aussi. Alors, ce serait un idéal à atteindre, mais moi, c'était surtout dans le calendrier, je questionnais, moi, je mettais en doute le fait que ce puisse se faire rapidement. Il y a vraiment beaucoup d'arrimages à voir, à mettre en place entre les pratiques au niveau fédéral, les pratiques au niveau des provinces. Alors ça va demander vraiment un travail collaboratif de l'ensemble des intervenants qui sont impliqués dans la communauté sportive canadienne.
Merci, M. Croteau. Vous avez encore beaucoup de travail, malheureusement. Puis peut-être que les athlètes vont être mieux protégés dans le futur. Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci à vous. Bonne journée.
Alors, on rejoint notre chroniqueuse à Québec, Marie-Lou Martineau, qui va nous parler du parcours des Jeux du Québec aux Jeux olympiques. Alors, bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Toi, Dominique?
Ça va très bien, merci. Alors, pourquoi tu as décidé de nous parler des Jeux du Québec?
J'ai décidé de parler des Jeux du Québec quand moi-même, à l'hiver 2015, à Drummondville, j'ai participé aux Jeux du Québec dans le cadre du podcast. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour se démarquer dans la discipline que nous pratiquons et savoir si on se sent prêt à faire tout ce qu'il faut pour devenir un athlète de haute performance.
Marie-Lou, toi, tu pratiques le boccia, qui est un sport paralympique. Les Jeux du Québec, si je ne me trompe pas, c'est un des Jeux qui inclut avant tout des athlètes non handicapés. Mais ça fait combien de temps que les sports paralympiques ont été intégrés aux Jeux du Québec?
Les sports paralympiques qui ont été intégrés aux Jeux du Québec, dans le fond, il y a juste seulement deux sports. Le basket en fauteuil roulant depuis 2009 et le boccia depuis 2013. Les autres sports comme le badminton, le para-hockey, para-natation sont classés dans les Olympiques spéciaux.
Merci beaucoup. Et pour faire un petit peu d'histoire, à quel moment les Jeux du Québec ont débuté?
Les Jeux du Québec ont débuté en 1970 avec une sélection des athlètes par région avec plus de 100 000 participants partout au Québec. C'est en hiver 1971 à Laval et en été à Rivière-du-Loup de cette même année qu'ont eu lieu les premières finales des Jeux. Il y a eu une finale des Jeux à chaque année jusqu'en 1981. Par la suite, l'événement s'est déroulé aux deux ans.
Je pense que il était supposé avoir des Jeux d'ailleurs à Laval, retourné à Laval l'été dernier, mais à cause de la pandémie ont été remis à plus tard. Mais il y a beaucoup d'athlètes québécois qui ont participé aux Jeux du Québec, des athlètes connus, là.
Oui, entre autres, Joanie Rochette en patinage artistique, Alexandre Despatie en plongeon, Alex Harvey en ski de fond, Sylvie Bernier en plongeon aussi, également comme Alexandre Despatie, Gaëtan Boucher en patinage de vitesse. Et c'est pas mal ça. Ils ont participé à cet événement avant de débuter leur carrière professionnelle.
Je pense que les Jeux du Québec, c'est un bon tremplin pour les jeunes. Parce que, puis tout même de ton expérience personnelle, tu peux nous en parler. Parce que c'est un peu comme des mini-Jeux olympiques.
Oui, les Jeux du Québec, pour ma part, en boccia, la compétition s'est déroulée sur 3 jours. Puis il y avait seulement les parties entre les athlètes. Il n'y avait pas de finale, ni de demi-finale et de finale. Puis on devait jouer 3 fois contre la même personne. Et l'athlète qui remportait le plus de parties gagnait la médaille d'or, ainsi de suite, la médaille d'argent et la médaille de bronze.
Puis ça te permettait de voir aussi d'autres sports puis de faire partie d'une équipe qui regroupe plusieurs sports, là.
Oui, ça m'a permis de faire partie de la délégation de la capitale nationale qui rejoignait plusieurs athlètes en trousse en basket, en fauteuil roulant, en tennis de table, en para-hockey, hockey costume aussi. Des trucs, c'est pas mal. Les genres d'athlètes, pas juste les personnes handicapées.
OK. Puis, dans les athlètes canadiens qui ont connu beaucoup de succès, t'aimerais ça nous parler un peu de Joanie Rochette qui s'est illustrée beaucoup plus tard aux Jeux Olympiques.
Oui, Joanie Rochette est née le 13 janvier 1986. Elle a été championne canadienne. Elle est championne canadienne depuis 2005 et est montée sur le podium du championnat canadien depuis 2000. Joanie Rochette est la première Canadienne à remporter le titre national dans trois catégories différentes, novice, junior et senior. Je me souviens, lors de sa performance en 2010 à Vancouver aux Jeux olympiques, elle venait d'apprendre une triste nouvelle que sa mère était décédée quelques jours avant sa performance. Et ce qui m'a plus impressionné, c'est que malgré qu'elle vivait un deuil, elle a livré une bonne performance, assez bonne pour remporter la médaille de bronze. Après sa carrière sportive, elle a poursuivi ses études en médecine et en 2015, elle a obtenu son... en 2015. Et en 2020, elle a obtenu son diplôme en médecine. Depuis, elle travaille en CHSLD. En terminant, je voudrais dire que cela démontre qu'avec de la patience, de la détermination et des efforts, que tout être humain, autant les personnes handicapées aux Jeux paralympiques ou les personnes qui sont capables de marcher et de se rendre aux Olympiques, peut aller au bout de ses rêves.
Merci beaucoup, Marie-Lou, et puis on se reparle une prochaine fois. Au revoir.
Merci.
Alors, comme le dessert, on garde le meilleur pour la fin.
Mon Dieu!
Bonjour, Yvan, ça va bien?
Oui, oui, j'ai failli m'étouffer étant qualifié de dessert.
Mais ça, c'est quand même pas si pire, je trouve.
Oui, et puis même surtout qu'on peut choisir la sorte, mais ça sera le sujet d'une autre chronique.
Oui, parce qu'il fait beau dehors.
Il fait beau dehors, oui.
Dehors. Bon, on va parler de golf.
Oui. Vous avez probablement, comme plusieurs personnes, pris un peu de temps à l'intérieur pour regarder le Masters en fin de semaine. Dans ma chronique, j'ai choisi de vous parler de ce tournoi-là, mais pas d'une façon journalistique, c'est-à-dire je vous dirai pas que c'est par exemple Monsieur Hideki Matsuyama qui a gagné, parce que vous le savez déjà.
Non, oui, ça m'intéresse.
Je vais vous parler un peu du Masters, les alentours de, parce que c'est un tournoi légendaire avec beaucoup de traditions, puis je vais essayer de démystifier certaines d'entre elles.
Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui font des voyages spécifiquement pour voir ce tournoi-là qui est assez spécial.
Oui.
L'histoire de ce tournoi-là, ça a débuté comment?
Ça commence en 1930. Le légendaire Bobby Jones a pris sa retraite du golf compétitif après avoir gagné 13 championnats majeurs. Et il a rencontré un banquier qui se spécialisait dans le monde de l'investissement, M. Clifford Roberts. Puis il lui a exprimé son souhait, son rêve de bâtir un club de golf. Alors les deux ont amené leur passion ensemble et ont décidé de s'en aller dans tout près d'Atlanta, en Géorgie, dans une petite municipalité qui s'appelle Augusta. Et ils ont acheté une partie de terrain d'une pépinière, ça s'appelait Fruitland Nurseries. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez, une des belles choses à regarder dans ce tournoi-là, c'est juste le paysage. Ça se fait toujours vers la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Les fleurs en Géorgie commencent à s'ouvrir et on peut ne pas connaître le golf et tomber en pamoison devant ce tournoi-là juste par le décor.
Oui, c'est très vert, il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment impressionnant.
Il y a vraiment beaucoup de couleurs. D'ailleurs, chacun des trous est nommé par une sorte de plante, une sorte d'arbre qui pousse à cet endroit-là. Par exemple, le trou numéro 1, c'est le trou de l'olivier. Le trou numéro 6, le trou de du genièvre. Et ça finit par le trou numéro 18. Le numéro 18, c'est le trou du grand chêne. Alors, tout au Masters est tiré de l'endroit où ça a été créé, avec un endroit où qui regorgeait de plantes et d'arbres.
Donc, ça existe depuis longtemps.
Oui, depuis 1930, mais ça a commencé à s'appeler The Masters seulement quelques années plus tard parce que Bobby Jones, il trouvait que appeler le tournoi The Masters ou le tournoi des maîtres, c'était un peu prétentieux. Mais après quelques saisons, il s'est aperçu que ça commençait à attirer de très grands joueurs. Puis là, le nom de Masters pouvait être correct. Les joueurs qui participent à ce tournoi-là, c'est un tournoi par invitation et il y a de 90 à 100 joueurs qui y participent. Et d'abord, il y a tous les gagnants des anciens Masters. Il y a les 5 derniers gagnants des grands tournois, le US Open, le PGA Championship et le tournoi de Grande-Bretagne. Et les trois derniers gagnants de The Players. En plus de ça, il y a le champion amateur des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Donc, c'est un 100 joueurs, mais 100 joueurs des gens qui ont déjà fait des choses importantes.
Donc, tu as mentionné que c'était un Japonais, Hideki Matsuyama, qui est le premier joueur d'origine japonaise à gagner le tournoi. D'ailleurs, le tournoi de golf aux Jeux olympiques à Tokyo vient de monter d'intérêt oui. d'un cran.
Oui, tout à fait. C'est de valeur qu'il n'y aura pas de billets pour les gens de l'extérieur, mais ça va être une compétition qui va être très suivie.
Il y a un seul joueur canadien qui a réalisé cet exploit de gagner le tournoi. Oui. Qui est-il et comment cette victoire s'est concrétisée?
Mike Weir, c'est en 2003. Mike Weir, c'est un gaucher. Il avait même déjà écrit à Jack Nicklaus pour lui demander, quand Mike Weir était très jeune, il lui demandait « Moi, je suis gaucher, est-ce que je devrais apprendre à jouer droitier? » Parce que la plupart des terrains de golf sont construit pour avantager un petit peu les joueurs droitiers. Et Jack Nicklaus lui a dit « Non, continue à jouer comme tu te sens, puis ça va bien se passer. »
Alors, Jack Nicklaus, pour ceux qui ne le connaissent pas, puis qui ne connaissent absolument rien au golf, c'est...
Oui. Ben, c'est le Tiger Woods de l'époque, sauf qu'il était... À cette époque-là, il n'y avait pas de noir qui jouait au golf beaucoup. Alors, c'était un grand blond. C'est lui il a gagné 6 fois le Masters. Et c'est lui qui a encore le record du plus grand nombre de tournois majeurs remportés. Il me semble que c'est 18. Et Tiger Woods essaye de le rejoindre, mais avec tout ce qui lui arrive, ça s'en vient de plus en plus difficile.
Pour revenir à Mike Weir.
Mike Weir commence la partie. Il commence le tournoi. En le menant, il commence sa première ronde avec un compte de 70. Il suit avec un compte de 68. Donc, après 2 jours de tournoi à la coupure, c'est lui qui est premier, 138. Et là, ça commence à moins bien aller. La pression commence à se faire sentir. Troisième ronde, il joue un 75. Et à la dernière ronde, il joue un 68, mais il est rattrapé par un joueur du nom de Len Mattis. Et il se retrouve au 18e trou et il a à caler un putt d'une douzaine de pieds. Il raconte lui-même que c'est probablement le coup de golf le plus difficile qu'il a eu à jouer Mike Weir. Alors, il réussit à maintenir l'égalité après 18 trous. Donc, ils s'en vont en coup supplémentaire. Et Mike Weir a gagné avec un bogey parce que Len Mattis, lui, il a joué un double bogey. Alors, c'est de cette façon-là qu'il a gagné le Masters en 2003. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne le Masters? Bon, ben de nos jours, on gagne à peu près un petit peu plus que 2 millions de dollars.
C'est quand même pas
donc,
pire.
Déjà là, ça, c'est pas trop pire. Ensuite, une exemption à vie pour le Masters. Le fameux veston vert qui est fait spécialement pour la personne. Évidemment, quand on lui remet après sa victoire, c'est pas le veston vert. C'est un veston vert qu'on lui pour montrer qu'il a gagné. Mais après ça, il y a un veston vert à lui, mais qu'il peut porter seulement sur place, au tournoi. Il peut pas le porter ailleurs.
Yvan,
oui?
Il reste que quelques secondes. Il reste 10 secondes.
Oui.
Je sais que le golf, le Master, c'est tout un tournoi. Il y a beaucoup de souvenirs et de moments magiques dans ce tournoi-là, mais on devra en parler une autre fois.
La balle de Tiger Woods sur le bord du trou.
C'est ça, ça c'est toute une image. À la prochaine, Yvan. Merci.
Salut.
Merci beaucoup pour cette émission du 13 avril. Merci à mes invités et on se parle dans 2 semaines. Et un petit bonjour et un merci à Mathieu à la technique.